Chapitre V1. Je suis maintenant venu au moi illégitime, qui, plus ou moins, touche immédiatement la bien plus grande part de l'humanité. Ce moi illégitime est double, premièrement, ce qui concerne le culte religieux, et deuxièmement, ce qui regarde la conduite morale et civile dans le monde. Et l'un et l'autre sont d'une infinie importance pour nous, et je serai aussi bref que je le puis, sans blesser ma conscience ni nuire à la matière. 2. Ce moi illégitime en religion, qui doit être mortifié par la croix du Christ, c'est l'invention de l'homme et son exécution d'un culte à Dieu comme s'il était divin, alors qu'il ne l'est pas, ni dans son institution ni dans sa pratique. Ces gens se nommant chrétiens, bien qu'ils soient fort extérieurs, pompeux et superstitieux dans leur culte. Non seulement, ils sont spirituellement mal préparés dans la manière dont ils rendent un culte à Dieu Tout-Puissant, qui est Esprit éternel, mais leur culte même est totalement incompatible avec la forme et la pratique même de la doctrine du Christ, et diffère aussi de l'exemple des apôtres. Le culte des apôtres était simple et spirituel, le leur est voyant et mondain. Le vrai culte du Christ est des plus intérieurs et mentaux, leur culte est extérieur et exécuté physiquement. Le culte des apôtres se conformait à la nature de Dieu, qui est esprit, tandis que le leur se concentre sur la partie la plus charnelle de l'homme. Ainsi, au lieu d'exclure la chair et le sang, ils montrent un culte calculé pour gratifier la chair et le sang, comme si leur culte n'était pas destiné à plaire à Dieu, mais à se plaire à eux-mêmes. Un culte paré de bâtiments et d'images si majestueux, d'un riche mobilier et de vêtements, de voix et de musique rares, de lampes coûteuses, de cierges de cire et d'encens, et le tout joué avec la variété la plus agréable au sens extérieur que l'invention puisse trouver ou que l'argent puisse acheter. Leur culte est comme si le monde était redevenu juif ou égyptien, ou comme si Dieu était vraiment un vieillard, et le Christ un petit garçon, à traiter avec une sorte de masque religieux, car c'est ainsi qu'ils le figurent dans leur temple, et trop d'entre eux dans leurs esprits. Et la vérité est qu'un tel culte peut fort bien convenir à une idée aussi erronée de Dieu, car lorsque les hommes peuvent le penser semblable à eux-mêmes, il n'est pas étonnant qu'ils s'adressent à lui de la manière qui leur est la plus agréable, comme les autres s'adressent à eux. 3. Mais qu'a dit le Tout-Puissant à un tel peuple sensuel d'autrefois, si semblable à celui d'aujourd'hui? Tu as pensé que j'étais comme toi, mais je te reprendrai, et je mettrai tes péchés en ordre devant toi. Maintenant, considérez cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous mette en pièces et qu'il n'y ait personne pour délivrer. Mais, à celui qui règle correctement sa conduite, je montrerai le salut de Dieu, Psaume 50, 21-23. C'est là le culte qui lui est agréable, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu, Michée 6-8. Car celui qui sonde le cœur, éprouve la modération de l'homme et met ses péchés en ordre devant lui, lui qui est le Dieu des esprits de toute chair, ne regarde pas la structure extérieure, mais la disposition intérieure de l'âme et l'inclination du cœur. Il ne faut pas non plus penser avec sobriété que celui qui est revêtu d'honneur et de majesté divin, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, qui étend les cieux comme une tenture, qui pose les poutres de ses chambres dans les eaux profondes, qui fait des nuées son char et marche sur les ailes du vent, qui fait de ses anges des esprits de ses ministres un feu flamboyant, qui a posé les fondements de la terre afin qu'elle ne soit jamais ébranlée, Psaume 104:5, puisse être convenablement adoré par ses inventions humaines. 4. Christ détourna ses disciples de la gloire et du culte du temple extérieur, et institua un culte plus intérieur et spirituel, dans lequel il instruisit ses disciples. « Vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, dit Christ à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, Jean 4, 21-24. » Comme s'il avait dit, à cause de la faiblesse du peuple, Dieu a jadis daigné se limiter à un temps, un lieu, un temple et un service extérieur, dans et par lesquels il voulait être adoré. Mais c'était pendant l'ignorance des hommes quant à son omniprésence, il est partout, y compris en nous, et il ne considérait pas ce qu'est Dieu, ni où il est. Mais je suis venu le révéler à tous ceux qui me reçoivent, et je vous dis que Dieu est esprit, et doit être adoré en esprit et en vérité. Les hommes doivent le connaître comme esprit, le considérer et l'adorer comme tel. Ce n'est pas ce culte corporel, ni ces services cérémoniels en usage parmi vous maintenant, qui suffiront ou seront acceptés par Dieu, qui est esprit. Non, vous devez obéir à son esprit qui lutte avec vous, pour vous rassembler hors du mal du monde, afin qu'en vous inclinant aux instructions et aux commandements de son esprit dans vos propres âmes, vous sachiez ce que c'est que de l'adorer comme esprit, alors vous comprendrez que ce n'est pas aller sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais faire la volonté de Dieu, obéir à ses commandements. Astérisque jusqu'à ce que vous ayez été crucifié sur la croix intérieure du renoncement à soi, pour recevoir le fruit de l'Esprit et pouvoir marcher selon l'Esprit et non selon la chair, vous devez obéir à la loi qui est dans le cœur de tout homme, laquelle comprend le noyau moral de la loi mosaïque et vous sert de pédagogue. Pour en savoir plus sur ce sujet, voire tant que vos paroles et vos actes ne sont pas inspirés par Dieu, vous devez obéir à la loi intérieure du cœur de tout homme. Jusqu'à ce que vous puissiez adorer en esprit et en vérité, Vous devez garder le silence afin de laisser Dieu vous préparer à pouvoir le faire. Astérisque, astérisque, bien avant que Jésus meure sur la croix, il nous a dit que nous devons prendre notre croix chaque jour, nous renier nous-mêmes et perdre notre vie pour la sauver. Puis il est mort sur la croix en obéissance au Père, ce qu'il souhaitait lui-même éviter d'une certaine manière, mais il s'est soumis à une mort horrible comme exemple à suivre pour nous. Si nous ne prenons pas notre croix intérieure du renoncement à soi, nous rabaissons la mort et le sang du Christ. 5. C'est pourquoi Étienne, ce hardi martyr de Jésus, dit aux Juifs, lorsqu'il était prisonnier pour avoir disputé de la fin de leur temple bien-aimé et de ses services, mais faussement accusé de blasphème, « Salomon a bâti à Dieu une maison, toutefois le trésor n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, comme dit le prophète, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous ? Dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos ? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? Actes 7, 47, 50. Reconnaissez que c'est un renversement total de tous les temples mondains et de leur culte cérémoniel. Étienne porte ensuite un coup à ces Juifs apostats, qui étaient alors des adorateurs pompeux, cérémonieux et mondains. Vous, gens aux coups raides et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères vous aussi, Actes 7, 51. Comme s'il leur avait dit, vos temples extérieurs, vos rites et vos services d'ombre, vos prétentions à la succession naturelle d'Abraham et religieuse de Moïse, tout cela ne compte pour rien. Vous résistez à l'Esprit, vous vous opposez à ses instructions, vous ne vous inclinez pas à son conseil, et vos cœurs ne sont pas droits devant Dieu. Vous êtes les héritiers de l'iniquité de vos pères, et, quoique admirateurs en parole, vous n'êtes nullement les successeurs des prophètes dans la foi et la vie. Mais le prophète Ésaïe va un peu plus loin que ce que cite Étienne. Car après avoir déclaré ce qui n'est pas la maison de Dieu, le lieu où demeure son honneur, il ajoute aussitôt ces paroles, « Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à celui qui est pauvre et qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole » et Ésaïe 66, 1, 2. Voici, ô homme charnel et superstitieux, le vrai adorateur, et le lieu du repos de Dieu, c'est là la maison et le temple de celui que le ciel des cieux ne peut contenir, une maison que le moi ne peut bâtir, et que nul ne peut, par la puissance de l'homme, préparer ou consacrer. 6. Paul, ce grand apôtre des gentils, rapporte expressément deux fois le mot « temple » à l'homme. Une fois dans son épître à l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas, dit-il, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, 1 Cor 6,19, et non un bâtiment fait de la main et du cœur de l'homme. » De nouveau, il dit au même, dans sa seconde épître, « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, 2 Cor 6,16, puis il cite la parole de Dieu par le prophète, « J'habiterai en eux et je marcherai en eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est là le temple évangélique, l'église chrétienne, dont les ornements ne sont pas les broderies et le mobilier de l'art et de la richesse du monde, mais les grâces de l'esprit, douceur, amour, foi, patience, renoncement à soi et charité. C'est ici que la sagesse éternelle, qui était avec Dieu dès l'éternité, avant que les collines fussent enfantées ou que les montagnes fussent posées, choisies d'habiter, me réjouissant, dit la sagesse dans la partie habitable de la terre, et mes délices étaient avec les fils des hommes, Pro 8, 22, 25-31, non dans des maisons bâties de bois et de pierre. Cette maison vivante est plus glorieuse que la maison morte de Salomon, et celle-ci n'en était qu'une figure, comme lui, le bâtisseur, était une figure du Christ, qui édifie un temple saint à Dieu. Il avait été promis autrefois que la gloire de la dernière maison surpasserait la gloire de la première, Haggai 2, 9, ce qui peut s'appliquer à ceci, non qu'un temple ou une maison extérieure doive exceller un autre par son éclat extérieur, car à quoi bon ? Mais que la gloire divine, la beauté de la sainteté dans la maison ou l'église de l'Évangile, composée de croyants renouvelés, dépasse la gloire extérieure du temple de Salomon, qui, en comparaison des derniers jours, n'était que chair auprès de l'Esprit, ressemblance passagère de la substance éternelle. Mais malgré tout cela, les chrétiens quakers ont des lieux de réunion astérisques non pas à la manière juive ou païenne, au contraire, leurs lieux de réunion sont simples, dépourvus de pompe et de cérémonie, convenant à la simplicité de leur vie bénie et de leur doctrine. Car la présence de Dieu n'est pas avec la maison, mais avec ceux qui sont en elle, qui sont l'Église de l'Évangile, et non la maison. Oh, si seulement ceux qui se disent chrétiens connaissaient la véritable sainteté en eux-mêmes, par le lavage de la grâce régénératrice de Dieu, au lieu de cette sainteté imaginaire attribuée au lieu, ils sauraient alors ce qu'est l'Église, et en ces jours évangéliques, où se trouve le lieu de l'apparition de Dieu. C'est ce qui fit dire à David, « La fille du roi est toute glorieuse au-dedans, son vêtement est d'or ouvré », Psaume 45, 13. Quelle est la gloire qui est au-dedans de la véritable Église, et quel or compose cette gloire intérieure, dites-moi, ô homme superstitieux. Est-ce vos temples majestueux, autels, tables, tapis, tapisseries, vos ornements, orgues, voix, cierges, lampes, encensoirs, vaisselle et bijoux, et semblables mobiliers de vos temples mondains? Tout cela ne compte pour rien, cela ne se compare pas à l'ornement divin de la fille du roi des cieux, l'église bénie et rachetée du Christ. Les édifices mondains sont une misérable apostasie. Et ils ne sont qu'un misérable substitut dans la perte et l'absence de la vie apostolique, de la gloire spirituelle de l'église primitive. Astérisque pendant de nombreuses années, les premiers Quakers se réunissaient dans des champs, des granges et des maisons. Ensuite, ils ont acquis ou construit de simples maisons de réunion, sans candélabres, lustres, vitraux, sanctuaires, structures gothiques en pierre, robes, orgues, chaires, bancs de communion, recueils de cantiques, ministres professionnels, chœurs, collecteurs d'argent, plateaux de quête, autels, croix, huissiers, fleurs, etc. C'est, pourtant, certains de ces admirateurs de la pompe et de la gloire extérieure dont le culte veulent paraître amis de la croix, et à cette fin ont attiré beaucoup de disciples. Mais hélas, quel espoir y a-t-il de concilier la pompe extérieure avec le christianisme? Car plus la pompe se rapproche de sa ressemblance, plus elle s'en éloigne en réalité. Leur croix et leur renoncement à soi ne sont qu'une forme inventée, et tandis qu'ils s'imaginent rendre à Dieu un culte avec cela, ils s'écartent dangereusement de la vraie croix du Christ et de ce saint renoncement à soi que le Christ a ordonné. Il est vrai, ils ont une croix, mais c'est un substitut de la véritable, et si délicate que la seule exigence est de la porter pour paraître. Car au lieu de mortifier leur volonté par elle, ils l'ont fait et l'emploient selon leur volonté. Ainsi la croix est devenue l'emblème de ne rien faire que ce qu'ils désirent. Et pourtant, par l'étalage volontaire de cet insigne du christianisme, ils veulent croire qu'ils sont ses disciples, ce que les vrais disciples ne firent jamais, car ils ne faisaient pas leur propre volonté, mais seulement la volonté de leur Père céleste. 8. C'est le genre de croix que la chair et le sang peuvent porter, car la chair et le sang l'ont inventée, elle n'est donc pas la croix du Christ, qui crucifie la chair et le sang. Des milliers de ces croix n'ont pas plus de vertu qu'un morceau de bouse de vache. Ce sont de pauvres ombres vides, pas même des images de la vraie croix. Certains les portent comme des talismans, mais ils ne repoussent pas le moindre mal. Ils pêchent avec elles sur le dos, et quand bien même ils les mettent sur leur poitrine, leurs convoitises bien-aimées y reposent aussi, sans la moindre inquiétude. Elles sont aussi muettes que les faux dieux dont Élie se moquait 1 Roi 18-27, il n'y a en elles ni vie ni puissance. Comment auraient-elles vie et puissance? Puisque leur matière est terrestre et que leur forme et leur fabrication ne sont que l'invention et le travail d'artistes mondains, est-il possible que de telles croix guérissent leurs fabricants du péché? Certainement pas neuf. Ce sont des jougs sans contrainte et des croix qui ne contredisent jamais la volonté égoïste de l'homme. Une charté entière de ces croix laisserait un homme aussi peu mortifié qu'elle l'aurait trouvé. Les hommes se casseraient plutôt la tête avec elles que leur péché. Et cela, je le crains, trop d'entre eux qui les utilisent le savent en leur conscience même. Ils les adorent en effet, une telle adoration et une telle fierté ne sont possibles qu'avec la fausse croix, puisque la vraie croix détruit l'orgueil, si elle est réellement portée. 10. À l'image de leur religion, leur croix est très voyante et triomphante, mais en quoi? En métaux précieux et en gemmes, achetés avec l'argent des gens qui soutiennent la superstition. Ces croix sont faites de trésors terrestres, plutôt que de la croix qui conduit au renoncement aux trésors terrestres, et comme les hommes, les croix sont estimées pour leur apparence extérieure. Une croix riche aura beaucoup de curieux et d'admirateurs, les croix pauvres, comme les autres choses, sont plus négligées. Je pourrais les conjurer de se défaire de cette grande vanité et superstition, si déficient au regard de la croix bénie de Jésus, qui ôte les péchés du monde, et le pécheur. 11. La vie de reclus, cette justice tant vantée par certains, n'est guère plus louable, ni d'un iota plus proche de la nature de la véritable croix. Car si elle n'est pas illégitime comme le sont d'autres choses, elle est contre nature, ce que la vraie religion n'enseigne pas. Le vrai couvent et le vrai monastère chrétien sont au-dedans du croyant, où le terrain est clos contre le péché. Les vrais disciples du Christ portent avec eux cette maison religieuse, ils ne s'exemptent pas du commerce du monde, bien qu'ils se gardent du mal du monde dans leur commerce. Le monastère ou le couvent est un renoncement à soi paresseux, rouillé et stérile, non commandé, pesant pour les autres qui subissent leur oisiveté, des asiles religieux, où l'on enferme les gens de peur qu'ils ne fassent du mal au dehors, patience par contrainte, renoncement à soi contre leur volonté, plutôt ignorant que vertueux, et hors de la tentation plutôt que content au milieu d'elle. Il n'y a rien à vaincre si l'on n'est jamais tenté. Ce que l'œil ne voit jamais, le cœur ne le convoite pas et n'en est pas dominé. 12. La croix du Christ est d'une autre nature, elle surmonte réellement le monde et conduit une vie de pureté au milieu de ses attraits. Ceux qui la portent ne sont pas ainsi enchaînés de peur qu'ils ne mordent, ni enfermés de peur qu'ils ne soient enlevés. Non, ils reçoivent du Christ, leur capitaine, la puissance de résister au mal et de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ils sont transformés pour mépriser le monde et aimer son opprobre plus que ses louanges. Ils sont conduits à n'offenser personne, mais à aimer ce qui les offense, quoique non pour les offenser. Quel monde aurions-nous si chacun, de peur de transgresser, se confinait entre quatre murs? Cela n'est pas requis, car la perfection de la vie chrétienne s'applique et comprend tout travail ou métier honnête qui se trouve parmi les hommes. Une telle isolation sévère n'est pas l'effet de l'esprit libre du Christ, mais une humilité volontaire et charnelle, de simples contraintes de leur propre fabrication, qu'ils s'imposant sans commandement ni raison. En tout cela, il est clair qu'ils se font eux-mêmes législateurs, et qu'ils fixent leurs propres règles, privations et rançons, une dureté contrainte, incompatible avec le reste de la création. Car la société a un grand bénéfice de la croix, et elle ne doit pas être détruite par crainte du mal. Le péché qui gâte la société est éliminé par une réprimande constante et par l'exemple manifeste d'une vertu éprouvée. La vraie piété ne fait pas sortir les hommes du monde, mais les rend capables d'y vivre mieux et excite leurs efforts pour améliorer le monde, non pour cacher leur chandelle sous un boisseau, mais pour la mettre sur une table dans un chandelier. D'ailleurs, l'isolement est une invention égoïste, et l'invention de l'homme ne peut jamais être la vraie croix qui est prise pour soumettre les inventions. Mais encore, cette humeur fuit elle-même et laisse le monde derrière pour qu'il se perde. Les chrétiens devraient tenir la barre et conduire le navire à son port, non s'échapper irresponsablement par la poupe du monde et laisser ceux qui y sont sans pilote, livrés à la fureur des temps mauvais, sur le rocher ou le sable de la ruine. En réalité, cet isolement monastique, s'il est adopté par des jeunes, sert communément à couvrir l'oisiveté, ou à solde des héritages, à épargner aux paresseux les peines du châtiment, ou aux classes supérieures la honte de la pauvreté. L'un ne veut pas travailler, l'autre le méprise. Si l'on est âgé, une longue vie de culpabilité se réfugie parfois dans la superstition, et après avoir fait sa propre volonté en d'autres choses, voudrait finir sa vie dans une religion volontaire pour faire amende à Dieu. 13. Mais prendre la croix de Jésus est un exercice plus intérieur. C'est la circonspection et la discipline de l'âme, en conformité avec l'Esprit divin révélé au-dedans du croyant. Le corps suit l'âme, et non l'âme le corps. Ceux qui prennent la croix intérieure ne savent-ils pas que rien d'extérieurement appliqué ne peut empêcher l'âme de convoiter, ni l'esprit d'avoir une infinité d'imaginations injustes? Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, et elles surviennent continuellement. Le mal vient du dedans du cœur, et non du dehors. Comment donc une application extérieure pourrait-elle enlever une cause intérieure, ou une contrainte imposée au corps, opérer le confinement de l'esprit? Le confinement des pensées de l'esprit réussit moins là où il y a le moins d'action, parce qu'il y a le plus de temps pour penser. Et si ces pensées ne sont pas guidées par un principe supérieur, les couvents nuisent davantage au monde que les maisons de commerce. Et pourtant, une retraite périodique est à la fois excellente et nécessaire. Les foules et les cohues n'étaient pas fort fréquentées par les anciens saints pèlerins. 14. Examine-toi, ô homme, quelle est ta fondation, et qui t'y a placé, de peur qu'à la fin on ne te trouve être appuyé sur une imposture extérieure pour ta propre âme. J'avoue que je souhaite le salut de mon prochain, ayant trouvé miséricorde auprès de mon Père céleste. Je ne voudrais pas que quelqu'un se trompe lui-même jusqu'à la perdition, surtout en matière de religion, où les hommes sont le plus enclins à tout tenir pour acquis et à perdre infiniment par leurs propres mérites imaginaires et leur négligence. La justice intérieure et constante de Jésus vaut plus que toute la dévotion fabriquée du pauvre homme superstitieux, et être approuvé aux yeux de Dieu surpasse tout rituel religieux issu de l'invention des hommes. L'âme éveillée est préservée par sa sainte puissance et son esprit vit pour lui selon la voie de sa propre institution, et l'adore dans son propre esprit, c'est-à-dire dans le sens saint, la vie et les directions de cet esprit, ce qui est en effet le culte évangélique. Je ne méprise pas une vraie retraite, car non seulement je reconnais la solitude, mais je l'admire. Christ lui-même en fut un exemple. Il aimait et choisissait de fréquenter les montagnes, les jardins et les rivages de la mer. Elle est requise pour la croissance de la piété, et je révère la vertu qui la recherche et en use, souhaitant qu'il y en eût davantage dans le monde, mais elle doit être librement entrée et quittée, non contrainte. Comment une retraite contrainte, punitive, pourrait-elle profiter à l'esprit, quand elle devrait être un plaisir? Non, j'ai longtemps pensé que c'était une erreur, parmi toutes sortes d'ordres monastiques, de n'avoir pas de retraite pour les affligés, les tentés, les solitaires et les dévots, où ils pourraient, sans trouble, attendre Dieu passer par leurs exercices religieux, et fortifiés par là puissent, avec plus de pouvoir sur leur propre esprit, rentrer de nouveau dans les affaires nécessaires du monde. Quoique le moins d'inutile, le mieux, assurément, car les plaisirs divins se trouvent dans une solitude libre. Chapitre vie, mais il en est d'autres, d'une spéculation plus raffinée et d'une pratique réformée, qui n'ose pas utiliser, et encore moins adorer un morceau de bois ou de pierre, une image d'argent et d'or, mais qui toléreront une pompe juive, voire païenne, dans le culte pratiqué par d'autres, comme si le culte du Christ était de ce monde, quoique son royaume ne le soit pas. Bien qu'ils soient doctrinalement opposés à une telle superstition, ils s'inclinent à leurs propres devoirs religieux et estiment l'accomplissement formel de plusieurs parties du culte, même si cela va contre la pente de leur commodité charnelle, et une telle précision n'est pas une petite croix pour eux. Ils croient que s'ils s'abstiennent de l'acte effectif de péché grossier et scandaleux, tout en entretenant pourtant les pensées continuelles de ces choses, ils se tiennent suffisamment en sécurité dans l'enceinte du discipleship et les murs du christianisme. Mais cela aussi est une discipline trop faible au regard de la croix du Christ, et ceux qui se flattent d'une telle manière de la prendre seront, à la fin, trompés par une fondation de sable et un cri de minuit. Car le Christ a dit, « Mais moi, je vous dis que de toute parole vaine que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement » Matt 12:36. Vous ne pouvez pas simplement vous abstenir d'actes pécheurs et voir le salut, votre cœur doit être changé pour les haïr et pour qu'il n'ait plus aucune attraction pour vous. 2. Car premièrement, ce n'est pas l'accomplissement des devoirs religieux que Dieu regarde, mais la source de cet accomplissement. Les hommes peuvent, et certains le font, contrarier leur propre volonté par leur propre volonté, omission et commission volontaire. Qui vous a demandé cela de vos mains ? Ésaïe 1, 12, déjà dit le Seigneur aux Juifs lorsqu'ils semblaient diligents à le servir, mais c'était selon une manière qu'ils avaient imaginée ou inventée, et selon leur propre temps et leur propre volonté, non avec l'âme réellement touchée et préparée par la puissance divine de Dieu, mais par un culte seulement corporel renoncement pour la santé. Cela, l'apôtre nous le dit, profite peu. Ne pas s'en tenir à la manière de prendre la croix dans le culte, comme dans les autres choses, a été une grande cause de la superstition troublante qui est encore dans le monde. Car les hommes n'ont pas davantage soumis leur culte à l'épreuve que leur péché, au contraire, ils ont ignoramment pensé que le culte était une sorte d'excuse pour leur péché, et non que leurs performances religieuses puissent avoir besoin d'une croix ou d'une justification. 3. Mais le vrai culte ne peut venir que d'un cœur préparé par le Seigneur. Pro 16:1. Cette préparation se fait par la sanctification de l'esprit, et si les enfants de Dieu sont conduits par lui dans le cours général de leur vie, comme Paul l'enseigne, Rome 8:14, à plus forte raison dans leur culte envers leur Créateur et Rédempteur. Et quelle que soit la prière faite ou la doctrine prononcée, si elle ne vient pas du mouvement du Saint-Esprit, elle n'est pas acceptable à Dieu. Ce n'est que par la préparation et l'aide de l'Esprit que le culte évangélique peut être vrai, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Car qu'est pour Dieu Tout-Puissant un amas des paroles les plus pathétiques, ou la dédicace de quelque lieu ou temps que ce soit. Il est esprit pour qui les paroles, les lieux et les temps, strictement considérés, sont impropres ou insuffisants, bien qu'ils soient les instruments du culte public, ils ne sont que charnels et visibles, et ne peuvent porter nos demandes plus loin, et encore moins les recommander au Dieu invisible. Un tel culte charnel ne peut pas non plus profiter à l'assemblée, car c'est le langage de l'âme que Dieu entend. Nul ne prie correctement sans l'aide de l'Esprit, nul ne peut soupirer correctement vers le Dieu Tout-Puissant sans l'assistance de l'Esprit. 4. L'âme de l'homme, si vive soit-elle en d'autres choses, est morte à Dieu jusqu'à ce qu'il y souffle l'Esprit de vie. Elle ne peut vivre pour lui, encore moins l'adorer sans l'Esprit. Ainsi Dieu nous dit par Ézéchiel, dans une vision de la restauration de l'humanité, en la personne d'Israël, manière habituelle de parler chez les prophètes, et souvent mal comprise, « J'ouvrirai vos sépulcres, dit le Seigneur, et je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez. » Ésaïe 37, 12-14. Ainsi bien que le Christ ait enseigné à ses disciples à prier, ils étaient, en un certain sens, disciples avant qu'il ne les instruise, non des hommes du monde, dont les prières sont une abomination à Dieu. Et son enseignement ne prouve pas que tout le monde doive réciter cette prière, qu'il puisse ou non la dire avec le même cœur et sous les mêmes dispositions que ses pauvres disciples ou ses disciples d'alors, comme on le pratique aujourd'hui d'une manière trop superstitieuse et présomptueuse, mais plutôt que, comme eux alors, ainsi nous maintenant, nous ne devons pas prier nos propres prières mais les siennes. C'est-à-dire celles qu'il nous rend capables de faire, comme il les en rendit capables alors. 5. Car si nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous dirons lorsque nous paraîtrons devant des princes du monde, parce que cela nous sera donné alors, et que ce n'est pas nous qui parlons, mais l'Esprit de notre Père Céleste qui parle en nous, Matt 10, 19-20, à bien plus forte raison notre propre capacité ne peut être requise, ni devons-nous nous étudier des formes de discours lorsque nous nous approchons du grand prince des princes, roi des rois et seigneur des seigneurs. Car si nous considérons sa grandeur, nous ne le devrions pas, selon l'ordre du Christ même au sujet de princes mondains moindres, et si nous considérons notre relation à lui comme enfant, nous n'en avons pas besoin, il nous aidera, il est notre Père, c'est-à-dire s'il nous gouverne réellement par son Esprit. Ainsi, non seulement la bouche du corps, mais celle de l'âme est fermée jusqu'à ce que Dieu l'ouvre, et alors il aime en entendre le langage. La prière du corps, l'esprit charnel de l'homme, ne devrait jamais aller avant la prière de l'âme. Son oreille est ouverte à de telles requêtes, et son esprit intercède puissamment pour ce qui les offre. 6. Comment recevons-nous cette préparation du cœur, nous donnant son esprit pour adorer en esprit et en vérité? Je réponds en attendant patiemment, mais avec vigilance et intensité, devant Dieu. Seigneur, dit le psalmiste, tu as entendu le désir des humbles, tu prépareras leur cœur, tu feras que ton oreille entende. Psaume 10:17, et dit la sagesse, la préparation du cœur dans l'homme vient de l'Éternel. Pro 16:1. Ici, vous ne devez pas penser vos propres pensées ni prononcer vos propres paroles, ce qui est en effet le silence de la Sainte Croix, mais vous tenir à l'écart de toutes les imaginations confuses qui ont coutume d'affluer et de presser l'esprit dans ces saintes retraites. Il ne vous appartient pas de penser vaincre le Tout-Puissant par la matière la plus composée, couler dans la phrase la plus appropriée. Non, non, un seul gémissement, un seul soupir, d'une âme blessée, d'un cœur touché d'un vrai remords, d'une tristesse sincère et selon Dieu, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'emporte et prévaut auprès de Dieu. Tenez donc votre esprit immobile, attendez de sentir quelque chose de divin, qui vous prépare et vous dispose à adorer Dieu véritablement et agréablement. Ainsi vous prenez la croix, et vous fermez les portes et les fenêtres de l'âme à tout ce qui interromprait cette attente devant Dieu, quelque agréable que soit l'objet en lui-même, quelque licite ou nécessaire qu'il puisse être en un autre temps. La puissance du Tout-Puissant fera irruption, son esprit œuvrera et préparera le cœur, afin qu'il offre un sacrifice acceptable. C'est lui qui découvre les besoins et les fait peser sur l'âme, et lorsqu'elle crie, c'est lui seul qui les comble. Les requêtes qui ne jaillissent pas du sentiment et de la préparation de l'esprit sont formelles et factices. Elles ne sont pas vraies, car les hommes prient selon leurs désirs aveugles et non selon la volonté de Dieu, et son oreille leur est fermée. Mais à cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des indigents, Dieu a dit « Je me lèverai » Psaume 12:5, c'est-à-dire les pauvres en esprit, l'âme indigent, ceux qui ont besoin de son assistance, qui sont près d'être submergés, qui sentent le besoin et crient à haute voix pour un libérateur. Il rachètera leur âme de la tromperie et de la violence, et leur sang sera précieux à ses yeux. Psaume 72:12-14. Ce pauvre homme, dit-il, a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34:6-8. Puis il invite tous à venir goûter combien l'Éternel est bon. Oui, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Psaume 115:13. 7. Mais qu'est-ce que cela pour ceux qui n'ont pas faim? Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecins. Matt 9:12. Les rassasiés sont heureux et les riches ne crient pas au secours. Ceux qui ne sont pas sensibles à leurs besoins intérieurs, qui ne craignent pas leurs contraintes au péché, qui ne sentent aucun besoin de la puissance de Dieu pour les aider, ni de la lumière de sa face pour les consoler, pourquoi prient-ils à leur dévotion et au mieux une grave moquerie du Tout-Puissant? Ils ne savent pas, ils ne veulent pas, ils ne désirent pas ce pourquoi ils prient. Ils prient que ta volonté soit faite et font constamment la leur, malgré les conséquences. Ils demandent la grâce et abusent de ce qu'ils ont. Ils prient pour l'Esprit, mais lui résistent en eux-mêmes et tournent en ridicule l'Esprit chez les autres. Ils demandent les miséricordes et la bonté de Dieu, mais ne ressentent aucun besoin réel de miséricorde. Et dans cette insensibilité intérieure, ils sont aussi incapables de louer Dieu pour ce qu'ils ont que de prier pour ce qu'ils n'ont pas. Ils loueront l'Éternel, dit David, ceux qui le cherchent, car il rassasie l'âme qui languit et remplit de bien les affamés. Psaume 22:26-107-9. Cela aussi il le réserve aux pauvres et aux indigents, et à ceux qui craignent Dieu, que les pauvres en esprit et les indigents louent ton nom. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, et vous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Jacob était un homme simple, au cœur droit, et ceux qui le sont sont sa postérité. Et quoique, comme lui, ils puissent se voir aussi pauvres que des vers, ils reçoivent pourtant la puissance de lutter avec Dieu et de prévaloir comme il le fit. 8. Mais sans la préparation et la consécration de cette puissance, nul homme n'est apte à se présenter devant Dieu autrement, il faudrait moins de sainteté et de révérence pour adorer Dieu sous l'Évangile qu'il n'en fallait au temps de la loi, où tous les sacrifices étaient aspergés avant d'être offerts. Le peuple avait consacré ses offrandes avant de se présenter devant le Seigneur. Nombre 8:19-2 et Chronique 30:16-17. Si le fait de toucher une bête morte ou impure rendait alors les gens inaptes pour le temple ou le sacrifice, jusqu'à ce qu'ils fussent d'abord aspergés et sanctifiés, comment pourrions-nous penser si pauvrement du culte institué par le Christ au temps de l'Évangile, au point de nous présenter nous-mêmes, non préparés et non sanctifiés comme des offrandes? Ou admettre que ceux qui, en pensée, en parole ou en acte, touchent chaque jour ce qui est moralement impur, puissent s'en venir au sang de Jésus, qui asperge la conscience des œuvres mortes, adorer acceptablement le Dieu pur, c'est une contradiction manifeste au bon sens. L'impur ne peut pas adorer convenablement ce qui est saint, l'imparfait ce qui est parfait. Il y a une sainte relation et communion entre le Christ et ses disciples, mais aucune entre le Christ et Bélial, entre lui et ceux qui désobéissent à ses commandements et ne vivent pas la vie de sa croix bénie et du renoncement à soi, 2 Cor 6 15-16. Tant que votre cœur n'a pas été purifié du mal, votre culte, autre que le silence en espérant être convaincu et purifié, est inacceptable à Dieu, voire une abomination. 9. Mais de même que le péché ne peut adorer Dieu, la formalité ne le peut pas non plus, non, quand même la manière serait de sa propre ordonnance, ce qui fit que le prophète, représentant quelqu'un dans une grande détresse, s'écria, « Comment me présenterai-je devant l'Éternel, et me prosternerai-je devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon corps pour le péché de mon âme ? Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel exige de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 6:6-8. Le prophète royal, sensible à cela, s'adresse ainsi à Dieu, « Ô Éternel, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Psaume 51:15-17. Il n'osait pas ouvrir ses propres lèvres, il savait qu'elle ne pouvait pas louer Dieu. Et pourquoi? Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais, si mes offrandes formelles pouvaient suffire, tu n'en manquerais pas, tu ne te plais point au holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Et pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'effet de sa puissance, et ses propres œuvres le louent. Dans le même sens, Dieu lui-même parle par la bouche d'Isaïe en opposition aux formalités et au culte des lèvres des Juifs dégénérés. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu serait celui de mon repos? Car c'est ma main qui a fait toutes ces choses, mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est pauvre et qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole, Ésaïe 66:1-2. Oh, voici le vrai adorateur, un homme préparé par Dieu, circoncis de cœur et d'oreille, qui ne résiste pas au Saint-Esprit, comme le faisaient ces Juifs altiers qui se disaient croyants. Était-ce ainsi donc, même au temps de la loi, qui était la dispensation des observances extérieures et figuratives, et pouvons-nous maintenant espérer être agréés sans la préparation de l'Esprit du Seigneur en ces temps de l'Évangile, qui sont proprement les temps de l'effusion de l'Esprit? Nullement Dieu est ce qu'il était, et ses vrais adorateurs sont seulement ceux qu'il adore dans son propre esprit. Ceux-là, il les chérit comme la prunelle de son œil, les autres ne font que se moquer de lui, et il les méprise. Écoutez ce qui suit à propos de ce peuple, car c'est l'état et le lot de la chrétienté aujourd'hui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau, comme celui qui trancherait le cou d'un chien, celui qui présente une offrande, comme celui qui offrirait du sang de porc, celui qui brûle du parfum, comme celui qui bénirait une idole. Oui, ils ont choisi leur propre voie, et leur âme prend plaisir à leurs abominations, Ésaïe 66:3. Que personne ne dise, nous n'offrons pas de telles oblations, car ce n'est pas la question. Dieu n'était pas offensé des offrandes, mais des offrands. C'étaient là les formes légales de sacrifice que Dieu avait instituées, mais puisqu'elles n'étaient pas présentées avec cet état d'esprit, et sous cette juste disposition d'âme qui était requis, Dieu déclara son abhorrence, et cela avec grande aggravation, et ailleurs, par le même prophète, il leur défend d'apporter encore devant lui des oblations vaines, l'encens, dit Dieu, est en abomination pour moi. Vos sabbats et vos convocations, je ne puis les supporter, c'est l'iniquité, même la réunion solennelle. Et quand vous étendez vos mains, je détournerai de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas, Ésaïe 1:13-15, renonciation des plus terribles à leur culte, et pourquoi? Parce que leur cœur était souillé, ils n'aimaient pas le Seigneur de tout leur cœur, mais enfreignaient sa loi, se rebellaient contre son esprit, et ne faisaient pas ce qui est droit à ses yeux. La cause est évidente par l'amendement qu'il exige. Lavez-vous, dit le Seigneur, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve, et Ésaïe 1:16-17. À ces conditions, et à rien de moins, il leur dit de venir à lui, et il leur dit que si leurs péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine, et Ésaïe 1:18. Combien est vrai ce remarquable passage du psalmiste, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par ma langue. Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais assurément Dieu m'a écouté, il a prêté l'oreille à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, ni retirer de moi sa miséricorde. Psaume 66, 16, 20.
10.
On pourrait citer beaucoup de passages de ce genre, pour montrer le déplaisir de Dieu contre les formes de culte qu'on lui rend lorsqu'elles sont accomplies sans son propre esprit, et sans cette préparation nécessaire du cœur chez l'homme, que rien d'autre ne peut produire ni donner. Préparation qui, entre tous les écrivains sacrés, nous est le plus fréquemment et le plus vivement recommandée par l'exemple du psalmiste, lequel se rappelait toujours ses grands égarements, leur cause et la manière dont il en vint à être agréé de Dieu, et à recevoir de lui. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, c'est en toi que j'espère tout le jour. Psaume 25, 5. Son âme regardait à Dieu pour le salut, afin d'être délivrée des pièges et des maux du monde. Cela montre un exercice intérieur et une attente spirituelle, qui ne consistait pas en formes extérieures, mais en un secours divin intérieur. Et, en vérité, David avait un grand encouragement à agir ainsi, la bonté de Dieu l'y invitait et l'y affermissait. Car, dit-il, j'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, et il a entendu mon cri. Il m'a aussi retiré d'un gouffre horrible, de la fange du bourbier, et il a posé mes pieds sur un roc. Psaume 41:2. C'est-à-dire que le Seigneur apparut intérieurement pour consoler l'âme de David, qui attendait son secours, et pour la délivrer des tentations et des afflictions prêtes à l'accabler, et lui donna sécurité et paix. C'est pourquoi il dit, « L'Éternel a affermi mes pas », c'est-à-dire qu'il a fixé son esprit dans la justice. Auparavant, chaque pas l'enlisait, et il pouvait à peine avancer sans tomber, la tentation était de toutes parts, mais il attendit patiemment Dieu. Son esprit se retira, vigilant, attentif à sa loi et à son esprit, et il sentit le Seigneur s'incliner vers lui. Son cri, plein de besoin et de sensibilité, monta jusqu'au ciel et obtint gain de cause. Alors vinrent la délivrance et le secours pour David, au temps de Dieu, non au sien, la force de traverser ses exercices et de surmonter tous ses troubles. Pour cela, nous dit-il, un cantique nouveau fut mis dans sa bouche, des louanges à son Dieu. Psaume 43. Mais c'était l'œuvre et le don de Dieu, non les siens. Une autre fois, nous le voyons crier ainsi, comme le cerf soupire après les ruisseaux d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu. Cela va bien au-delà de la formalité et ne peut être attaché à aucune leçon. Mais nous pouvons voir par là que le vrai culte est une œuvre intérieure, que l'âme doit être touchée et élevée dans ses désirs célestes par l'Esprit céleste, et que le vrai culte est dans la présence de Dieu. Quand viendrai-je et paraîtrai-je ? Non pas dans le temple, ni avec des sacrifices extérieurs, mais devant Dieu en sa présence. Ainsi les âmes des vrais adorateurs voient Dieu, se présentent devant lui, et c'est cela qu'elles attendent, qu'elles désirent ardemment, dont elles ont soif. Oh, combien la plus grande part de la chrétienté a dégénéré de l'exemple de David. Il n'est donc pas étonnant que ce bon homme nous dise « En vérité, mon âme se confie en Dieu, et qu'il en donne la charge à son âme. Ô mon âme, attends-toi à Dieu seul, car mon attente vient de lui. » Comme s'il avait dit « Nul autre ne peut préparer mon cœur ni pourvoir à mes besoins, de sorte que mon attente ne vient pas de ma propre performance volontaire, ni du culte corporel que je puis lui offrir, ils n'ont aucune valeur, ils ne peuvent ni m'aider ni lui plaire. Mais je l'attends, lui, pour recevoir la force et la puissance de me présenter devant lui d'une manière qui lui soit le plus agréable, car celui qui prépare le sacrifice l'acceptera certainement. C'est pourquoi en deux versets, il le répète trois fois, « J'attends l'Éternel, mon âme attend l'Éternel plus que les sentinelles n'attendent le matin. » Oui, avec une telle intensité et avec une telle infatigabilité de l'âme qu'il dit en un endroit, « Mes yeux se consument tandis que j'attends mon Dieu. » Psaume 69, 3. Il ne se contentait pas de tant de prières, d'un culte réglé ou d'une répétition limitée. Non, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé le Seigneur, c'est-à-dire les consolations de sa présence, qui apportent à son âme la réponse d'amour et de paix. Et ce n'était pas seulement sa pratique à lui, comme homme plus qu'ordinairement inspiré, car il en parle comme de la manière de culte alors en usage parmi le vrai peuple de Dieu, l'Israël spirituel, la circoncision de cœur de ce temps-là. Voici, dit-il, comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leur maître, et comme les yeux d'une servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Psaume 123, 2. Ailleurs, notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Psaume 33, 20. J'attendrai ton nom, car il est bon devant tes saints. Psaume 52, 9. Cela était en honneur chez les vrais pieux de ce temps-là, et c'est ainsi qu'ils en venaient à jouir de Dieu et à l'adorer agréablement. Et de sa propre expérience du bénéfice d'attendre Dieu et de la pratique des saints d'alors, il le recommande aux autres, « Attends-toi à l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur, attends-toi, dis-je à l'Éternel. » Psaume 27, 14. C'est-à-dire « Attends dans la foi et la patience, et il viendra te sauver. Encore, demeure en l'Éternel, et attends-toi patiemment à lui. » C'est-à-dire, abandonne-toi à lui, sois content et attends qu'il vienne t'aider dans tes besoins. Tu ne peux pas imaginer combien il est proche d'aider ceux qui l'attendent. Oh, essaie et aie la foi. De plus, il nous dit « Attends-toi à l'Éternel et garde sa voix » Psaume 37-34. Voici pourquoi si peu profitent. Ils sont hors de sa voix et ceux-là ne peuvent jamais attendre correctement. David avait de grandes raisons de dire ce qu'il disait, lui qui, avec tant de consolation et d'avantages, avait rencontré le Seigneur dans sa voix bénie. Attendre Dieu, c'est persévérer à demeurer dans un humble silence, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. Attendre Dieu est mentionné dans toute la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Attendre Dieu est la manière dont ceux de l'Église primitive ont réalisé les promesses du véritable Évangile, être délivré de l'esclavage du péché, entrer dans le royaume de Dieu, et être en union avec Christ et avec Dieu. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter un salut complet. Et 9:28 Une attente persévérante et patiente, c'est être témoin que Jésus t'apporte ton salut. Ce que tu entends, tu dois y prêter attention et obéir pour obtenir le salut. Ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui lui prêtent attention et lui obéissent. Et 5:9 C'est par grâce que tu es instruit et transformé afin de devenir pur. Tite 2:11-14 Attendre Dieu donne accès à la puissance de l'Esprit qui détruira en nous la nature pécheresse par notre obéissance à la croix intérieure du renoncement à soi. Attendre Dieu est la manière de répondre à Jésus nous disant « Venez à moi », parole répétée de nombreuses fois dans les Écritures. Cliquez pour les voir toutes. Attendre Dieu puis lui obéir est la manière de lui montrer ton respect et ton amour. 11. Le prophète Ésaïe nous dit que, bien que les châtiments du Seigneur fussent durs sur le peuple à cause de ses rechutes, pourtant, dans la voie de ses jugements, dans la voie de ses réprimandes et de son déplaisir, il l'attendait, et le désir de leur âme, voilà le point capital, allait vers son nom et vers le souvenir de lui. Ésaïe 26:8. Ils acceptaient d'être repris et châtiés, car ils avaient péché, et la connaissance de lui leur était si désirable. Mais quoi, ne vint-il pas enfin, et en miséricorde aussi? Oui, il vint, et ils le reconnurent lorsqu'il vint, doctrine que le monde brutal ne connaît pas. Voici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera. Ésaïe 25:9. Ô bienheureuse jouissance! Ô précieuse assurance! Voici une attente dans la foi qui a prévalu. Tout culte qui n'est pas dans la foi est stérile pour l'adorateur, aussi bien que déplaisant à Dieu, et cette foi est le don de Dieu, et la nature de la foi est de purifier le cœur, et de donner à ceux qui croient véritablement la victoire sur le monde. Eh bien, ils poursuivent, nous l'avons attendu, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons en son salut. Le prophète ajoute, heureux tous ceux qui attendent Dieu et pourquoi? Car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils ne défailliront jamais, ils ne se lasseront jamais. Ésaïe 30:18-40-31, l'encouragement est grand. Écoutez-le encore une fois, depuis le commencement du monde, on n'a point entendu, on n'a point perçu par l'oreille, l'œil n'a point vu, ô Dieu, que toi seul, ce que tu as préparé pour celui qui s'attend à toi, Ésaïe 64:4. Voyez la vie intérieure et la joie des justes, les vrais adorateurs, ceux dont l'Esprit s'inclinait devant l'apparition de l'Esprit de Dieu en eux, laissant et abandonnant tout ce contre quoi ils se déclaraient, et embrassant tout ce vers quoi ils les conduisaient. Au temps de Jérémie, les vrais adorateurs attendaient aussi Dieu, Jer 14:22, et il nous assure que le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche, l'âme 3:25. C'est là que le prophète Osée exhorte alors l'Église à se tourner et à attendre Dieu. Tourne-toi donc vers ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et attends-toi continuellement à ton Dieu, Osée 12:6. Et Michée est très zélé et résolu dans ce bon exercice, je regarderai à l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'écoutera, Michée 7:7. Ainsi faisaient les enfants de l'Esprit, qui avaient soif d'un sentiment intérieur de lui. Les méchants ne peuvent pas dire cela, ni ceux qui prient s'ils n'attendent pas. Il est reproché à Israël dans le désert, comme cause de sa désobéissance et de son ingratitude envers Dieu, qu'ils n'attendirent pas ses conseils. Nous pouvons être assurés que c'est notre devoir et ce que l'on attend de nous, car Dieu l'exige dans Sophonie. « C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, jusqu'au jour où je me lèverai, Sof 3:8. » Oh, que tous ceux qui professent le nom de Dieu attendent ainsi, et n'entreprennent pas de se lever pour adorer sans lui, ils sentiraient alors ses mouvements et ses relèvements en eux pour les aider, les préparer et les sanctifier. Christ chargea expressément ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre qu'ils eussent reçu la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit, Actes 1:4-8, afin d'être préparés à prêcher au monde le glorieux évangile du Christ. Bien que ce fût un commandement extraordinaire pour une œuvre extraordinaire, le degré ne change pas l'espèce, au contraire, si une telle attente et une telle préparation par l'esprit étaient requises pour les rendre capables de prêcher aux hommes, quelque chose, au moins, peut être nécessaire pour nous rendre capables de parler à Dieu. 12. Je conclurai cette grande doctrine scripturaire de l'attente par ce passage de Jean au sujet de la piscine de Bethesda. Il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait en certain temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût la maladie dont il était atteint, Jean 5, 2, 4. C'est une représentation très exacte de ce que vise tout ce qui a été dit sur le sujet de l'attente. Car de même qu'il y avait alors une Jérusalem extérieure et légale, il y a maintenant une Jérusalem évangélique et spirituelle, l'Église de Dieu, composée des fidèles. La piscine de l'ancienne Jérusalem représentait en quelque sorte cette fontaine qui est maintenant ouverte dans cette nouvelle Jérusalem. Cette piscine était pour ceux qui avaient des infirmités du corps, cette fontaine est pour tous ceux qui sont impuissants dans l'âme. Il y avait alors un ange qui mettait l'eau en mouvement afin de la rendre efficace. C'est maintenant l'ange de Dieu, le grand ange astérisque de sa présence, qui bénit cette fontaine et lui donne le succès. Ceux qui alors entraient sans attendre, et ne surveillaient pas l'ange ni ne profitaient de son mouvement, ne trouvaient aucun bénéfice à y descendre. Ceux qui maintenant n'attendent pas le mouvement de l'ange de Dieu, mais par une dévotion qu'ils façonnent et qu'ils règlent eux-mêmes, se précipitent devant Dieu comme un cheval dans la bataille et espèrent réussir, sont certains d'échouer dans leur attente. Ainsi comme alors ils attendaient avec toute patience et toute attention le mouvement de l'ange, ceux qui avaient besoin et désiraient être guéris, ainsi font aujourd'hui les vrais adorateurs de Dieu, qui ont besoin et prient pour sa présence, qui est la vie de leurs âmes comme le soleil l'est pour les plantes des champs. Ils ont souvent éprouvé l'inutilité de leur propre œuvre et sont maintenant parvenus au vrai sabbat. Ils n'osent pas inventer un procédé à eux, ni présenter une requête non sanctifiée, encore moins offrir un culte corporel quand l'âme est réellement insensible ou non préparée par le Seigneur. Dans la lumière de Jésus, ils attendent toujours d'être préparés, recueillis, retirés de toute pensée qui cause la moindre distraction et le moindre trouble dans l'esprit, jusqu'à ce qu'ils voient l'ange remuer, et jusqu'à ce que leur bien-aimé lui plaise de s'éveiller, et ils n'osent pas l'appeler avant son temps. Et ils craignent d'accomplir un service en son absence, car ils savent que ce n'est pas seulement inutile, mais répréhensible. Qui vous a demandé cela de votre main? Celui qui croit ne se hâtera point. Ésaïe 1, 12, 28, 16. Ceux qui adorent, par leur propre force, ne peuvent faire que comme les Israélites, fondre leurs pendants d'oreilles en une image de métal, et être maudits pour leur peine. Ceux qui jadis ramassaient du bois ne s'en tirèrent pas mieux, et qui allumèrent un feu, et s'entourèrent des étincelles qu'ils avaient allumées, Ésaïe 50, 11, car Dieu leur dit qu'ils se coucheraient dans la douleur. Non seulement cela ne leur serait d'aucun avantage et ne leur ferait aucun bien, mais cela attirerait un jugement de sa part, la douleur et l'angoisse de l'âme seraient leur part. Hélas, la chair et le sang voudraient bien prier, bien qu'ils ne puissent attendre et être saints, bien qu'ils ne puissent consentir à faire ou à souffrir la volonté de Dieu, avec la langue ils bénissent Dieu, et avec la langue ils maudissent les hommes, faits à sa ressemblance. Ils appellent Jésus Seigneur, mais non par le Saint-Esprit, et souvent ils nomment le nom de Jésus, oui, ils fléchissent même le genou devant lui, mais ils ne se détournent pas de l'iniquité, cela est abominable à Dieu. Astérisque un ange de Dieu est un esprit au service. C'est pourquoi Pen appelle le Saint-Esprit le grand ange de sa présence. 13. Bref, il y a 4 choses si nécessaires pour adorer Dieu correctement, et qui placent l'accomplissement de ce culte hors du pouvoir de l'homme, qu'il semble qu'il n'y ait presque rien de plus à faire que de les nommer. La première est la sanctification de l'adorateur. La deuxième, la consécration de l'offrande, dont il a déjà été parlé assez largement. La troisième, ce pourquoi il faut prier, ce que nul homme ne sait s'il ne prie avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et donc sans cet Esprit, nul homme ne peut vraiment prier. L'apôtre le met hors de doute, nous ne savons pas, dit-il, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Rome 8, 26. Les hommes qui ne connaissent pas l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit ignorent la pensée de Dieu, et ceux-là, assurément, ne peuvent jamais lui plaire par leurs prières. Il ne suffit pas de savoir que nous manquons. Mais nous devrions apprendre si ce manque n'est pas envoyé comme une bénédiction, déception pour l'orgueilleux, perte pour l'avare, et pour le néglige, coup de fouet, ôter ces choses, ce serait assurer la destruction, non aider au salut de l'âme. le monde vil, ne connaît rien sinon d'une manière charnelle, selon une interprétation de la chair, et trop de ceux qui se croient éclairés sont portés à donner de faux noms aux dispensations de la Providence. Par exemple, ils appellent jugement les afflictions, et misère les épreuves, plus précieuses que l'or le plus aimé. D'un autre côté, ils donnent aux préférences du monde le nom d'honneur, et à ses richesses celui de bonheur, alors que, pour une fois qu'elles sont ainsi, on peut grandement craindre qu'elles ne soient envoyées par Dieu sans foi pour des jugements, ou du moins des épreuves sur leurs possesseurs. Ainsi savoir quoi garder, quoi rejeter, quoi désirer, est une difficulté que Dieu seul peut résoudre pour l'âme. Et puisque Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, il peut mieux nous dire ce que nous devons demander que nous ne pouvons le lui dire. Ce qui fait que Christ exhorte ses disciples à éviter les longues prières répétitives Matthieu 6-7-8, leur disant que leur Père Céleste savait ce dont il avait besoin avant qu'il ne le demande, et il leur donna donc un modèle pour prier, non comme certains l'imaginent comme un texte pour des liturgies humaines, qui de tous les services sont le plus justement remarqués et blâmés pour leur longueur. Mais quand bien même les besoins qui font l'objet de la prière seraient une fois arrêtés, ce qui serait déjà un point important, la manière de prier est d'un moment encore plus grand que le fait de prier. Ce n'est pas la requête, mais l'état de l'esprit du suppliant. Le quoi peut être approprié, mais le comment défectueux. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin que nous lui apprenions nos besoins, lui qui doit nous les apprendre, et pourtant il veut que nous les lui disions, afin que nous le cherchions et qu'il descende vers nous. Mais lorsque cela est fait, voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur sur celui qui est pauvre, qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole et Ésaïe 66:2 sur le cœur malade, l'âme blessée, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont fatigués et chargés, une telle sincérité a besoin d'un aide. 14. Et cela ne suffit pas encore pour parfaire le culte évangélique. Il faut un quatrième requis, et c'est la foi, la vraie foi, la foi précieuse, la foi des élus de Dieu, qui purifie leur cœur, qui triomphe du monde, et qui est la victoire des saints. C'est elle qui anime la prière et la fait porter, comme la femme importune qui ne voulait pas être refusée, à laquelle Christ, semblant l'admirer, dit « Ô femme, ta foi est grande ». Au Matthieu 15-28. C'est de la plus haute importance de notre part pour donner à nos démarches du succès auprès de Dieu, et pourtant ce n'est pas en notre pouvoir non plus, car c'est un don de Dieu, c'est de lui que nous devons la recevoir, et avec un seul grain de cette foi, il s'accomplit plus d'œuvres, il se produit plus de délivrance, et il se reçoit plus de bonté et de miséricorde qu'avec toutes les courses, les désirs et les peines de l'homme, avec ses inventions et ses exercices corporels, ce qui d'une pesée expliquerait aisément pourquoi tant de culte à pas. Ils demandent, et ne reçoivent pas Jacques 4-3, ils cherchent et ne trouvent pas, ils frappent, et il ne leur est pas ouvert. Le cas est clair, leurs requêtes ne sont pas mêlées à cette foi purifiante par laquelle ils devraient prévaloir, comme celle du bon Jacob, lorsqu'il lutta avec Dieu et l'emporta. Et la vérité est que la plupart des gens sont encore dans leur péché, suivant les convoitises de leur cœur et vivant dans les plaisirs du monde, étrangers à cette foi précieuse. C'est la raison donnée, par le profond auteur de l'Épître aux Hébreux, de l'inutilité de la parole prêchée pour certains en ces jours-là, parce qu'elle n'était pas, dit-il, mêlée de foi en ceux qui l'entendirent, Hébreux 4:2. Le ministre peut-il donc prêcher sans foi? Non et bien moins encore un homme peut-il prier utilement sans foi, surtout quand il nous est dit que « le juste vivra par la foi », Hébreux 10:38, car le culte est l'acte suprême de la vie de l'homme, et ce qui est nécessaire aux actes inférieurs de la religion ne doit pas y manquer. 15. Cela peut modérer l'étonnement de certains de voir pourquoi Christ reprochait si souvent à ses disciples, aux gens de peu de foi, et pourtant il nous dit qu'un seul grain, si petit qu'un grain de moutarde, l'une des plus petites semences, s'il est vrai et droit, est capable de transporter des montagnes. Astérisque, comme s'il avait dit, il n'est aucune tentation si puissante qu'elle ne puisse être vaincue. Ainsi ceux qui sont captivés par les tentations et demeurent sans réponse à leurs besoins spirituels n'ont pas cette foi puissante, voilà la vraie cause. Elle était si nécessaire que Christ ne pût faire beaucoup de miracles là où les gens ne croyaient pas, et bien que sa puissance produisît des merveilles ailleurs, la foi ouvrait le chemin, de sorte qu'il est difficile de dire si cette puissance, par la foi, ou la foi, par cette puissance, produisit la guérison. Rappelons-nous ce que firent, par la force de la foi chez les malades, un peu de boue et de salive, un seul attouchement du bord du vêtement du Christ, et quelques paroles sorties de sa bouche, Jean 9, 6, Luc 8, 43, 48. « Croyez-vous que je puisse ouvrir vos yeux ?» Matt 9, 28, 29. « Oui, Seigneur, dirent les aveugles, et ils virent. » Au chef, crois seulement, Marc 5, 36, il crut et sa fille morte revint à la vie. « Encore, si tu peux croire, je crois, dit le Père, viens au secours de mon incrédulité, et l'esprit mauvais fut chassé et l'enfant recouvra la santé. » Il dit à l'un, « Va ta foi t'a guéri, Marc 10, 52, et à un autre, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés, Luc 7, 48, 50. » Et pour encourager ses disciples à croire, eux qui s'étonnaient de la rapidité avec laquelle sa sentence s'est exécutée sur le figuier stérile, il leur dit « En vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais encore si vous dites à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera, et tout ce que vous demanderez en priant si vous croyez, vous le recevrez. » Matthieu 21, 20-22. Ce seul passage convainc la chrétienté d'une grossière infidélité, car elle la chrétienté prie et ne reçoit pas. Astérisque la foi, c'est entendre la parole intérieure te dire ce que tu dois faire et dire, puis obéir. La foi, ce n'est pas choisir toi-même, depuis ton esprit charnel, ce que tu veux voir accompli, puis prier pour que cela soit fait. Oh non. Ce genre de foi est une foi démoniaque, provenant de la volonté d'un esprit ennemi de Dieu. Ce genre de foi produirait le chaos dans le monde. Ta foi doit être dans l'obéissance à ce que Dieu te demande de prier afin que cela s'accomplisse. Jésus n'a jamais fait, ni dit, ni formé une opinion, autrement que selon ce que le Père lui enseignait de faire, et ainsi devons-nous mourir à nous-mêmes, afin d'être dirigés en tout par les impulsions spirituelles de Dieu en pensée, en parole, en action et en prière. Jésus n'a fait que la volonté du Père, et nous devons en faire autant si nous espérons entrer dans le royaume des cieux. 16. Mais certains diront, il est impossible de recevoir tout ce qu'un homme peut demander. Il n'est pas impossible de recevoir tout ce qu'un homme, qui croit ainsi, peut demander. Matthieu 19, 26. Les fruits de la foi ne sont pas impossibles à ceux qui croient véritablement au Dieu qui les rend possibles. Quand Jésus dit au chef, « Si tu peux croire », il ajoute, « Tout est possible à celui qui croit », Marc 9, 23. Bien, mais certains diront alors qu'il est impossible d'avoir une telle foi, car cette génération sans foi voudrait excuser son manque de foi en rendant impossible la foi qui lui manque. Mais la réponse du Christ à l'infidélité de ce temps-là confondra le mieux l'incrédulité d'aujourd'hui. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu, Marc 10, 27. Il s'ensuit donc qu'il n'est pas impossible à Dieu de donner cette foi, bien qu'il soit certain que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, car l'auteur aux Hébreux l'enseigne ainsi, Hébreux 11, 6. Et si sans elle, il est autrement impossible de plaire à Dieu, il doit l'être aussi de prier Dieu sans cette foi précieuse, 17. Mais certains diront, qu'est-ce que cette foi si nécessaire au culte, qui lui donne une telle acceptation auprès de Dieu et qui rapporte un tel bénéfice aux hommes? Je dis que c'est une sainte résignation à Dieu et une confiance en lui attestée par une obéissance religieuse à ses saintes exigences, qui donne à l'âme une assurance certaine des choses qu'on ne voit pas encore, et un sens et un goût généraux de la substance des choses qu'on espère, c'est-à-dire la gloire qui doit être révélée plus tard. Comme cette foi est le don de Dieu, elle purifie aussi les cœurs de ceux qui la reçoivent. L'apôtre Paul témoigne qu'elle ne demeurera que dans une conscience pure, 1 Tim 3, 9. C'est pourquoi en un endroit, il joint un cœur pur et une foi sans feinte, 1 Tim 1, 5, en un autre, la foi et une bonne conscience, 1 Tim 1, 19. Jacques joint la foi à la justice, Jacques 2, et Jean joint la foi à la victoire sur le monde. Ceci, dit-il, est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, 1 Jean 5, 4, 18. Les héritiers de cette foi sont les vrais enfants d'Abraham, Rome 4, 12, en ce qu'ils marchent sur les traces d'Abraham, selon l'obéissance de la foi, qui seule donne aux gens le droit d'être enfants d'Abraham. Cette foi vit au-dessus du monde, non seulement de son péché, mais de sa justice. À cette foi qui aboutit au salut, nul homme ne parvient sinon par la mort à soi-même par la croix de Jésus, et par une entière dépendance par lui envers Dieu. Célèbres sont les exploits de ce don divin, le temps manquerait pour les raconter, toutes les histoires sacrées en sont remplies. Mais qu'il suffise de dire que, par la foi, les saints anciens ont enduré toutes les épreuves, vaincu tous les ennemis, prévalu auprès de Dieu, rendu sa vérité célèbre, achevé leur témoignage, et obtenu la récompense des fidèles, une couronne de justice, qui est la béatitude éternelle des justes. Chapitre vie ayant ainsi déchargé ma conscience contre cette part du moi illégal, qui voudrait volontiers être chrétien, croyant, saint, tout en demeurant un étranger évident à la croix du Christ et à ses saints exercices, et ayant ce faisant découvert brièvement ce qu'est le vrai culte, et l'usage et le rôle de la Sainte Croix en lui, afin de rendre son accomplissement agréable au Dieu Tout-Puissant, je vais maintenant, le même Seigneur m'assistant, poursuivre plus amplement cette autre part du moi illégal, qui remplit l'étude, le son. La croix introduit, à la place de ces mauvaises habitudes qui avaient tant besoin de réforme, les effets bénis de la mortification, de l'humilité, de la tempérance, de l'amour, de la patience et du détachement du monde, avec toutes les autres grâces de l'Esprit, convenant aux disciples du parfait Jésus, cet homme très céleste. Le soin et l'amour de tous les hommes sont dirigés soit vers Dieu, soit vers eux-mêmes. Ceux qui aiment Dieu par-dessus tout humilient toujours le moi devant ses commandements, et n'aiment le moi que dans la soumission à celui qui est Seigneur de tout. Mais ceux qui se sont détournés de cet amour pour Dieu s'aiment eux-mêmes plus que Dieu, car l'amour suprême doit se centrer sur l'un de ces deux objets. À cet amour de soi déréglé, l'apôtre joint à juste titre orgueilleux et hautain, 2 Tim 3, 2-4. car à peine les anges eurent-ils décliné leur amour, leur devoir et leur révérence envers Dieu, qu'ils s'aimèrent et s'estimèrent démesurément eux-mêmes, ce qui les fit dépasser leurs conditions et aspirer au-dessus de l'ordre de leur création. Tel fut leur orgueil, et cette triste défection fut leur chute funeste, ils sont réservés dans des chaînes de ténèbres pour le jugement du grand jour de Dieu. 2. L'orgueil, ce mal destructeur qui ouvre le chapitre, a aussi commencé la misère du genre humain, c'est une qualité des plus pernicieuses, et si communément connue par ses mouvements et ses tristes effets, que tout cœur non mortifié porte l'orgueil. L'orgueil est un excès d'amour de soi, joint à un mépris des autres et à un désir de domination sur eux, la chose la plus troublante au monde. Il y a quatre choses par lesquelles il s'est le mieux fait connaître à l'humanité, et dont les conséquences ont apporté une misère égale à son mal. La première est une recherche déréglée de la connaissance, la deuxième, un appétit ambitieux et une quête du pouvoir, la troisième, un désir extrême de considération personnelle et de déférence, et le dernier excès est celui des possessions et des ornements du monde. J'en appelle, quant à la vérité de ces choses, au juste et véritable témoin du Dieu éternel, placé dans l'âme de tous les hommes. 3. Pour ce qui est du premier point, il est évident qu'un désir déréglé de connaissance introduisit la misère de l'homme et entraîna une chute universelle loin de la gloire de son état primitif. Adam désira être plus sage que Dieu ne l'avait fait. Il ne lui suffisait pas de connaître son Créateur et de lui rendre cet hommage saint auquel son être et son innocence l'engageaient et l'excitaient naturellement, ni d'avoir une intelligence supérieure à toutes les bêtes des champs, aux oiseaux du ciel et aux poissons de la mer, joint un pouvoir de dominer sur toute la création visible de Dieu. Mais il voulut devenir aussi sage que Dieu. Cette recherche injustifiée, aussi sotte qu'ambitieuse et injuste, le rendit indigne des bénédictions reçues de Dieu. Cela le chassa du paradis, et, au lieu d'être seigneur du monde entier, Adam devient le plus misérable vagabond de la terre. 4. Étrange changement. Au lieu de devenir comme des dieux, ils tombèrent au-dessous même des bêtes, en comparaison desquelles Dieu les avait pourtant fait comme des dieux. La lamentable conséquence de cette grande défection a été un échange de l'innocence contre la culpabilité et d'un paradis contre un désert. Mais ce qui est pire encore, dans cet état Adam et Ève s'étaient donné à un autre Dieu que l'unique vrai Dieu vivant, et celui qui les avait entraînés dans tout ce malheur leur fournit une connaissance vaine et une sagesse destructrice, l'art des mensonges et des équivoques, des subterfuges, des échappatoires et des excuses. Ils avaient perdu leur simplicité et leur sincérité, et d'un cœur droit, image dans laquelle Dieu avait créé l'homme, l'homme devint un serpent tortueux, s'enroulant et se contorsionnant, l'image de cet esprit injuste du serpent, aux tentations duquel il céda, abandonnant par son obéissance son paradis de bonheur. 5. Et cela ne se limite pas à Adam, car tous ceux qui ont manqué à la gloire de Dieu naissent fils de sa désobéissance. Ils ont, comme lui, mangé de ce qui leur était défendu, ils ont commis les choses qu'ils n'auraient pas dû faire, et ils ont omis celles qu'ils auraient dû faire. Ils ont péché contre cette lumière divine de connaissance que Dieu leur a donnée. Ils ont attristé son esprit, et cette sentence funeste a été exécutée, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Astérisque, c'est-à-dire, quand tu fais la chose que tu ne dois pas faire, tu ne vivras plus dans ma faveur ni ne jouiras des consolations de la paix de mon esprit, ce qui est une mort à tous ces désirs et affections innocents et saints avec lesquels Dieu a créé l'homme. Et il devient comme quelqu'un de froid et engourdi, insensible à l'amour de Dieu, à son Saint-Esprit, à sa puissance et à sa sagesse, à la lumière et à la joie de sa face, ainsi qu'à l'évidence d'une bonne conscience et au co-témoignage et à l'approbation du Saint-Esprit de Dieu. Astérisque, et bien que nous vivions une vie, nous vivons sans la vie de Dieu. Dieu n'a pas menti, ils sont morts à la vie de Dieu le même jour, et à cause d'Adam, nous sommes tous morts dans nos péchés, morts à la vie de Dieu, Gênesis 2:17-24, ayant été retranchés de l'arbre de vie. Cette vie de Dieu est ce que Christ a dit être venu restaurer, « Je suis venu afin qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance sous une forme supérieure, Jean 10:10. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, Jean 1:4. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Jean 8:12-6. Ainsi, la connaissance que l'Adam déchu avait de Dieu ne consistait plus en une expérience quotidienne de l'amour et de l'œuvre de Dieu dans son âme, mais en une notion de ce qu'il avait autrefois connu et éprouvé. Et celle-ci n'étant pas la sagesse vraie et vivante qui vient d'en haut, mais une simple image, ne peut conserver l'homme dans la pureté, elle enfle, rend les gens orgueilleux, hautains et impatients de la contradiction. Tel était l'état des Juifs apostats avant la venue du Christ, et telle a été la condition des chrétiens apostats depuis sa venue, leur religion, à quelques pratiques corporelles près, consistant soit en ce qu'ils ont autrefois connu de l'œuvre de Dieu en eux-mêmes, et dont ils se sont détournés, soit en une croyance historique astérisque et une conception imaginaire astérisque astérisque et une paraphrase sur les expériences et les prophéties de tels saints hommes et femmes de Dieu qui, en tout âge, ont mérité le titre et le caractère de Astérisque la foi que les apôtres prêchaient n'était pas une foi extérieure, mais une foi intérieure. L'objet des deux fois est le même, mais les différences sont cruciales pour réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont, être d'accord avec l'histoire de la Bible selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, etc. C'est la foi biblique extérieure, entendre la parole de Dieu, laquelle est dans ton cœur pour y obéir, c'est la parole de foi que les apôtres prêchaient. Entendre et obéir à Jésus qui te parle du dedans de ton cœur, c'est la foi opérante, la foi intérieure, la foi que Jésus lui-même te donne. Par une obéissance persévérante aux commandements entendus de Dieu dans ton cœur, cette foi intérieure justifie, purifie, rachète, rend juste, sanctifie et sauve, pour te donner paix, joie et justice dans l'union et la communion avec le Christ et le Père, c'est voir et écouter ton bien-aimé, en vivant une vie sainte qui lui plaît. Astérisque astérisque, chacune des 45 000 sectes prend un sous-ensemble des Écritures et crée sa propre image de Dieu et de Jésus, puis l'adore, le tout fondé sur leur opinion collective quant aux passages invalides et à ceux qui, selon eux, leur donnent la vie éternelle. Dieu n'est connu que par révélation, par ce que tu vois et entends dans ton cœur. Dieu n'est pas connu en lisant les Écritures ou en assistant aux offices des sectes. 7. Dès lors, une telle connaissance de Dieu ne peut être vraie. L'expérience nous montre qu'une telle foi produit toujours des fruits qui ne sont pas la vraie sagesse. Car de même que la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, Jacques 3:17. Ainsi la connaissance des hommes dégénérés et non mortifiés est d'abord impure, car elle est venue par la commission du mal, et elle est retenue dans une conscience mauvaise et impure chez ceux qui désobéissent aux lois de Dieu, et qui chaque jour font ces choses qu'ils ne devraient pas faire, pour lesquelles ils se tiennent condamnés devant le tribunal du jugement de Dieu dans les âmes des hommes. La lumière de sa présence sont les choses les plus claires. La sagesse terrestre est la science faussement ainsi nommée, et comme elle est impure, elle est aussi sans paix, crêleuse et difficile à fléchir, désobéissante, perverse et persécutrice, jalouse que quiconque soit meilleur qu'eux, et haïssant et maltraitant ceux qui le sont. 8. C'est l'orgueil qui fit de Caïn un meurtrier, Gènes 4:8. C'est une qualité malveillante, pleine d'envie et de vengeance. Quoi sa religion et son culte n'étaient-ils pas aussi bons que ceux de son frère? Il avait toutes les parties extérieures du culte, il offrait comme Abel, et l'offrande en elle-même pouvait être aussi bonne, mais il semble que le cœur qu'il offrait ne l'était pas. Il y a longtemps que Dieu regardait le culte intérieur de l'âme. Eh bien, quelle fut la conséquence de cette différence? L'orgueil de Caïn le prit à la gorge. Il ne pouvait supporter d'être surpassé par son frère. Il devint furieux et résolu de justifier son offrande en vengeant le refus de celle-ci sur la vie de son frère, et sans aucun égard pour l'affection naturelle, ni pour la condition basse et primitive de l'humanité, il souilla barbarement ses mains du sang de son frère. 9. La religion des Juifs s'apostats ne fit pas mieux. Car ayant perdu la vie intérieure, la puissance et l'esprit de la loi, ils s'enflèrent de la connaissance qu'ils avaient, et leurs prétentions à Abraham, à Moïse et aux promesses de Dieu, dans cet état, ne servirent qu'à les gonfler d'un orgueil, d'une arrogance et d'une cruauté insupportables. Car ils ne pouvaient tolérer la vraie vision ou la prophétie quand elle venait les visiter, et ils traitaient les messagers de leur paix, les prophètes, comme s'ils avaient été des loups et des tigres. 10. Oui, il est remarquable que les faux prophètes, les grands ingénieurs contre les vrais, aient constamment été certains de persécuter les vrais prophètes en les traitant de faux, et par leur influence auprès des princes terrestres, ou de la pauvre multitude séduite, les faux prophètes en faisaient les instruments de leur malice. C'est ainsi qu'un saint prophète fut scié en deux, un autre lapidé à mort, etc. Tant est orgueilleux et obstiné la fausse connaissance, et ceux qui la recherchent, ce qui fit s'écrier le saint Étienne, « Homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères vous aussi, Actes 7:51, 11. » La vraie connaissance vint avec la joie des anges, chantant « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, hommes de bonne volonté. » Luc 2:14, la fausse connaissance accueillit le message par des calomnies. Le Christ fut jugé imposteur, et son pouvoir d'opérer des miracles fut attribué au diable, alors que ces miracles prouvaient en réalité le contraire. Ils cherchèrent fréquemment à le tuer, ce qu'ils accomplirent finalement avec méchanceté. Mais quel était leur principal motif? Eh bien, ils s'élevaient contre leur hypocrisie, leur longue robe aux larges phylactères, l'honneur qu'ils recherchaient auprès des hommes. Bref, ils en donnent eux-mêmes la raison en ces mots, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui ». C'est-à-dire, il nous enlèvera notre crédit auprès du peuple, ils s'attacheront à lui et nous délaisseront, et ainsi nous perdrons notre pouvoir et notre réputation auprès de la multitude. 12. Et la vérité est qu'il vint abaisser leur honneur, renverser leur statut de rabbi, et par sa grâce amener le peuple à cette connaissance intérieure de Dieu dont il s'était écarté par transgression, afin qu'ils voient la tromperie de leurs guides aveugles, qui par leur vaine tradition avaient rendu vaine la justice de la loi. et qui étaient si loin d'en être les vrais docteurs et les interprètes vivants, qu'en réalité ils étaient les enfants du diable, qui, dès le commencement, avaient été un menteur orgueilleux et un meurtrier cruel. 13. Leur orgueil, dans une fausse connaissance les ayant rendus incapables de recevoir la simplicité de l'Évangile, le Christ remercie son Père d'avoir caché les mystères de l'Évangile aux sages et aux intelligents, et de ne les avoir révélés qu'aux petits-enfants, Matthieu 11, 25. C'est cette fausse sagesse qui enfla l'esprit des Athéniens au point qu'ils méprisèrent la prédication de l'apôtre Paul comme une chose vaine et folle. Mais cet apôtre qui, plus que tous les autres, avait été instruit dans le savoir de son temps, réfléchit amèrement sur cette sagesse tant estimée des Juifs et des Grecs. Où est le sage ? Dit-il, où est le scribe ? Où est le discuteur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde ? Encore 1 20. Et il en donne une bonne raison, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui, 1 Cor 1, 29. C'est-à-dire que Dieu flétrira l'orgueil de l'homme dans la fausse connaissance, afin qu'il n'ait rien, en cette occasion, dont il puisse s'enorgueillir. La connaissance ne doit être due qu'à la révélation de l'Esprit de Dieu. L'apôtre va plus loin et affirme que le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, 1 Cor 1, 21. C'est-à-dire que la sagesse mondaine, loin d'être une aide, était telle que les hommes l'emploient, un obstacle à la vraie connaissance de Dieu. Et dans sa première épître à son bien-aimé Timothée, il conclut ainsi, au Timothée. Garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, 1 Tim 6-20. Tel était le sentiment des temps apostoliques, lorsque la grâce divine donnait la vraie connaissance de Dieu et guidait les chrétiens. 14. Eh bien, mais quel a été le résultat des siècles qui ont suivi celui des apôtres ? A-t-il été un peu meilleur que celui des temps juifs ? Pas du tout. Les chefs religieux professants les ont surpassés, tant par leurs prétentions à une plus grande connaissance que par leur dégénérescence loin de la vraie vie chrétienne. Car bien qu'ils eussent un modèle plus excellent que les Juifs, à qui Dieu parlait par Moïse son serviteur, lui leur parlant par son Fils bien-aimé, l'image expresse de sa substance, la perfection de toute douceur et humilité, et bien qu'ils parussent plus attachés qu'à rien d'autre à l'adoration de son nom et à la vénération de la mémoire de ses disciples et apôtres bénis, leur défection de la puissance intérieure et de la vie du christianisme dans l'âme fut si grande que leur respect n'était guère plus que formel et cérémoniel. Car malgré qu'ils soient, comme les Juifs, très zélés à orner leurs apparences extérieures d'une démonstration de piété, malgré qu'ils soient exacts à tailler leurs images, non seulement en conservant par prétention ce qui pourrait être les reliques de leur personne, mais en recommandant mille choses comme des reliques, qui sont purement fictives et très souvent ridicules et assurément tout à fait non chrétiennes. Pourtant, quant aux grandes et importantes choses de la loi chrétienne, à savoir l'amour, la douceur et le renoncement à soi, la chrétienté est ceux de la chrétienté devinrent hautains, orgueilleux, fanfarons, sans affection naturelle, curieux et crêleurs, embarrassant sans cesse l'Église de questions douteuses et ambiguës, remplissant le peuple de disputes, de crêles et de chamailleries, les attirant en partie, jusqu'à ce qu'enfin ils en vinrent à verser le sang, de sorte que devenir chrétien les rendait pires qu'auparavant. Oh, l'état misérable de ces prétendus chrétiens, qui, au lieu de la doctrine du Christ et de ses apôtres, d'aimer ses ennemis et de bénir ceux qui les maudissent, enseignèrent au peuple, sous le nom de zèle chrétien, à s'égorger les uns les autres avec la plus inhumaine barbarie, et au lieu de consentir à ce que leur propre sang fût versé pour le témoignage de Jésus, ils décidèrent de verser le sang des témoins de Jésus parce qu'ils étaient hérétiques. Astérisque ivre du sang des saints et des martyrs. Ainsi ce serpent subtil, ou esprit mauvais rusé, qui tenta Adam de sortir de l'innocence et les Juifs de s'éloigner de la loi de Dieu, a trompé les chrétiens, par de vains mensonges, les amenant à se détourner de la loi chrétienne de sainteté, et ainsi ils sont devenus ses esclaves, car ils règnent dans les cœurs des enfants de la désobéissance. Astérisque durant le Moyen Âge, 800 âpres J.C. à 1500 âpres J.C., 9 millions d'âmes furent mises à mort par l'Église romaine. Et tandis que cette fausse église est souvent identifiée par les protestants comme l'Église romaine, les protestants font tous partie de la même fausse prostituée, la bête a beaucoup de noms, et de sectes déficitaires pratiquant les inventions humaines des catholiques, baptême des nourrissons, trinité nulle part mentionnée dans les Écritures, mariage par des prêtres, bâtiment vain et orgueilleux appelé saint, clocher avec des cloches, robe noire, chemise noire, col spéciaux credo, lecture de sermons, sacrement, vicaire, clerc, pasteur, curé, bachelier. De nombreuses persécutions catholiques romaines furent justifiées par la célèbre formule de saint Augustin. Pourquoi l'Église ne devrait-elle pas user de la force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus ont contraint d'autres à leur destruction ? Un exemple classique de la fin justifie les moyens, qui perd de vue le principal commandement du Christ, aimer ses ennemis, non les détruire, un autre prétendu saint. Thomas d'Aquin écrivit, du côté de l'Église cependant, il y a une miséricorde qui vise la conversion de l'errant. C'est pourquoi elle ne le condamne pas aussitôt, mais après le premier et le second avertissement, comme l'apôtre l'ordonne après cela, s'il demeure encore obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion, vise le salut des autres en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et de plus le livre au tribunal séculier afin qu'il soit ainsi exterminé du monde par la mort. Les protestants ont aussi tué des hérétiques. Jean Calvin fut un fondateur principal du protestantisme, exerçant une grande influence sur les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et même les luthériens. Calvin fit arrêter Servet, rédigea des accusations d'hérésie contre lui et témoigna contre lui lors de son procès. Le crime de Servet fut d'avoir nié l'appui scripturaire de la Trinité et du baptême des nourrissons. Les accusations de Calvin et son arrestation aboutirent à ce que Servet fût brûlé vif sur le bûcher. Jacques Gruet, adversaire connu de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26 juillet 1547 pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit aussi brûler vives 34 femmes comme sorcières accusées d'être responsables d'une peste. Sa théocratie à Genève se vit attribuer un total de 58 condamnations à mort. Calvin justifia l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et blasphémateurs, en les punissant se rend complice de leurs crimes et coupable comme eux. Il n'est pas ici question de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observer dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une si extrême sévérité, sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû n'est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parenté ni le sang de quiconque, et que nous oublions toute humanité lorsqu'il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, répandant le sang et oubliant toute humanité, font remarquer que beaucoup d'autres protestants ont aussi tué des hérétiques, la défense, tout le monde le faisait, impliquant que tous les grands hommes de Dieu alors étaient des meurtriers. Un autre fondateur protestant vénéré, Martin Luther, a également préparé le terrain à la persécution nazie des Juifs. Dans ses écrits populaires, considérés comme sacrés par le peuple allemand, Luther préconisait d'incendier les synagogues juives, de détruire les livres de prière juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des juifs, de saccager leurs maisons et de faire en sorte que ces vers empoisonnés et venimeux soient contraints au travail ou expulsés pour toujours. Il semblait aussi approuver leurs meurtres, écrivant « Nous sommes en faute de ne pas les tuer ». La persécution nazie des juifs en Allemagne commença à grande échelle lors de la nuit de cristal, Kristallnacht, au cours de laquelle 200 synagogues furent brûlées, des livres juifs furent brûlés. 7500 vitrines de commerce juifs furent brisées d'où le nom de verre brisé, des pierres tombales et des sépultures furent arrachées, 30 000 juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire, d'ampleur comparable, eut lieu à Vienne en Autriche la même nuit. Ces événements se produisirent les 9-10 novembre 1938, l'anniversaire de Luther était le 10 novembre. Les conseils de Luther furent appliqués à la lettre lors de Kristallnacht. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Lorsque Luther publia sa Bible en Allemagne, ce fut une sensation. Des gens dépravés écoutèrent son enseignement sur la foi et la justification et conclurent qu'ils étaient des saints, certains conclurent qu'ils étaient des prophètes, certains conclurent qu'ils étaient des apôtres. Ils commencèrent à mal interpréter grossièrement d'autres passages de la Bible. Après tout, ils étaient des saints, n'est-ce pas ? Y compris, les 12 hériteront la terre, pour signifier que les biens des classes supérieures leur appartenaient de droit divin, et ainsi ils organisèrent l'armée du Seigneur de 300 000 hommes, et commencèrent à violer, piller et tuer 100 000 catholiques et nobles lors de la guerre des paysans. Martin Luther fut aussi sélectif dans ses croyances à l'égard des Écritures. Luther rejeta l'authenticité des livres d'Esther, des Hébreux, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse. Il appela l'épître de Jacques une épître de paille, estimant qu'elle entrait en conflit avec la croyance au salut par le Christ, et que les autres livres entraient en conflit avec son interprétation radicale selon laquelle le salut résultait du simple fait de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Pourtant, Jacques était un apôtre, un frère naturel de Jésus, et un pilier de l'Église de Jérusalem aux côtés de Jean et de Pierre, tout cela le rendait bien plus grand dans le Christ que Luther. Mais comme beaucoup de fondateurs de sectes non régénérés, Luther construisit une doctrine du salut sur des sous-ensembles des Écritures, en ignorant ou en écartant celles qui ne soutenaient pas son opinion. Et sa doctrine est la pierre angulaire de la doctrine protestante depuis 400 ans. À l'inverse, les premiers Quakers trouvèrent toutes les Écritures entièrement compatibles avec leur compréhension et leur croyance. Le fondateur de la secte épiscopale, le roi d'Angleterre Henri VIII, fit tuer 72 000 personnes, principalement des catholiques romains. Les puritains se révoltèrent contre le roi d'Angleterre, le déposèrent et le décapitèrent. Dans cette révolution, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande subirent trois guerres civiles où les puritains menèrent une guerre brutale contre les gouvernements en place, laissant 190 000 morts en Angleterre, 3,7% de la population, 60 000 morts en Écosse, 6% de la population, et 616 000 morts en Irlande, 41% de la population, majoritairement catholique. Justifiant leur révolution comme l'établissement du royaume du Christ sur la terre, les puritains considéraient leurs adversaires comme des ennemis du Christ. Les officiers puritains de leur armée inspiraient fréquemment leurs troupes en criant une citation de l'Ancien Testament contre l'idolâtrie païenne, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec tromperie et qui retient son épée loin du sang. » Les soldats puritains et parlementaires victorieux, avec leurs extraordinaires noms bibliques, Prescott Barbones et Sergent Hugh Agag in Pierce Before the Lord, parcouraient le pays, brisant les images dans les églises, arrachant les tuyaux des orgues, brisant les vitraux et mettant leurs chevaux à l'écurie dans les cathédrales. En 50 ans, les épiscopaliens, presbytériens, baptistes et congrégationalistes d'Angleterre et d'Amérique emprisonnèrent plus de 10 000 Quakers. 869 Quakers moururent dans des prisons déplorables au XVIII siècle, dont trois hommes et une femme pendus à Boston par les puritains croyant à la Bible. D'autres furent tués par des foules chrétiennes en colère qui les attaquaient dans leurs réunions silencieuses. Des dizaines de milliers de premiers Quakers virent leurs biens confisqués. Plus de 200 furent expulsés d'Angleterre. La bête reçut le pouvoir de vaincre les saints. La fausse église, la prostituée de Babylone, était ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Toutes les sectes qui tuèrent ou même approuvèrent qu'on tue, ceux qui avaient une opinion religieuse différente étaient très différentes des vrais chrétiens, en ne serait-ce qu'en envisageant le meurtre, elles suivaient et cédaient à leur père le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Ces saints catholiques, romains vénérés et les créateurs du protestantisme ignorèrent avec froideur les écritures du Nouveau Testament, qui déclarent clairement que nous devons aimer nos ennemis, prier pour nos ennemis, tendre l'autre joue, et que même penser à tuer ceux qui ne partagent pas notre foi est satanique. Jésus dit encore que si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il doit être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants, et s'il refuse de se repentir de son erreur, il doit être expulsé et évité, et non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Nous sommes censés aimer et prier pour nos ennemis, non les détruire. Tout prétendu chrétien qui fait cela, 1. Le renie comme Seigneur et Maître, 2. Le renie comme étant venu en chair, et 3. Est antichrist, 15. Et il est observé que, de même que l'orgueil, qui est toujours suivi de superstition et d'obstination, poussa Adam à rechercher une condition plus élevée que celle où Dieu l'avait placée, et que les Juifs animés du même orgueil, voulant surpasser le modèle que Dieu leur avait donné par Moïse sur la montagne, enseignèrent pour doctrine leur propre tradition, à tel point que lorsque quelqu'un violait leur tradition, le cri de « Crucifie, crucifie » retentissait contre lui. Ainsi les chrétiens de nom, par le même péché d'orgueil, avec une grande superstition et arrogance, ont introduit, au lieu d'un culte et d'une discipline spirituelle, des cérémonies, des rituels et du mondain, avec de telles innovations et traditions humaines, fruits d'une sagesse d'en bas. Qu'on en juge par leurs conciles et credos nombreux et embrouillés, avec « conformez-vous ou brûlez, croyez comme nous, souffrez en enfer pour toujours » à leur conclusion.
16.
Et comme cet orgueil injustifiable est mis d'abord à l'œuvre pour pervertir la spiritualité du culte chrétien, le rendant plutôt semblable à la religion ombreuse des Juifs et au culte clinquant des Égyptiens qu'à la grande sobriété et simplicité de l'institution chrétienne, qui n'est pas destinée à ressembler à celle de la montagne et à celle de Jérusalem. De même, ce même orgueil et cette même arrogance les ont aiguillonnés, par toutes les cruautés imaginables, à maintenir cette grande Diane déesse qui est la leur. Ni les supplications douces, ni les humbles suggestions contraires de ceux qui s'en tenaient à la pureté primitive du culte et de la doctrine ne purent prévaloir auprès de ces chrétiens de nom, afin qu'ils abandonnent l'imposition de leur tradition non apostolique. Mais à mesure que les ministres et évêques de ces chrétiens dégénérés abandonnaient la visite laborieuse et le soin du troupeau du Christ, et devenaient ambitieux, cupides et luxueux, ressemblant davantage à des rois du monde qu'aux humbles et mortifiés disciples du bienheureux Jésus, presque. Les vrais chrétiens appellent ces disciples persécutés de Jésus des martyrs, mais le clergé, comme les juifs persécuteurs, les a qualifiés de blasphémateurs et d'hérétiques. Ainsi, ils ont accompli la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas dit qu'il penserait rendre un bon service aux dieux en tuant les chrétiens, ses chers disciples, ce qui pourrait se rapporter aux persécutions des gentils idolâtres, mais qu'ils croiraient servir Dieu en les tuant, Jean 16, 2. Cela montre qu'ils professaient croire au vrai Dieu, comme les chrétiens apostats l'ont prétendu tout au long, de sorte que ces tueurs doivent être ces loups que l'apôtre avait annoncés, qui s'élèveraient du milieu d'eux-mêmes et ravageraient le troupeau du Christ, Actes 20, 29, après que la grande apostasie aurait commencé. Ces événements furent prédits par lui et rendus nécessaires afin d'éprouver les fidèles et de révéler le grand mystère d'iniquité. Je conclurai ce sujet par cette affirmation, qu'il est trop incontestablement vrai que, partout le clergé a eu le plus de pouvoir et d'autorité, et la plus grande influence sur les princes et les États, il y a eu le plus de confusion, de crêle, d'effusion de sang, de séquestre, d'emprisonnement et d'exil. Pour justifier cette affirmation, j'en appelle au témoignage des annales de tous les temps. Comment cela se rapporte à notre époque, je le laisse à l'expérience des vivants. Pourtant, il y a une démonstration qui ne peut guère nous faire défaut, le peuple n'est pas converti, mais débauché à un degré que le temps ne nous permet pas de détailler par des exemples. Le culte de la chrétienté est visible, cérémoniel et clinquant. Le clergé, ambitieux de préférence mondaine sous le prétexte de promotion spirituelle, fait des revenus terrestres des ecclésiastiques une grande raison de leur fonction, étant ambitieux et cupides de solliciter et d'obtenir des bénéfices de plus grands titres et de plus grands revenus. Ainsi, par leur orgueil et leur avidité, que le bon vieux Pierre avait prévu comme leur piège, ils ont entraîné derrière eux l'ignorance, la misère et une fausse religion sur la chrétienté. 17. Le moyen de se relever de cette misérable défection est de parvenir à une connaissance salvatrice de la religion, c'est-à-dire une expérience de l'œuvre divine de Dieu dans l'âme. Obtiens la diligence d'obéir à la grâce qui apparaît dans ton âme, ô homme, elle apporte le salut. Tite 2:11-12. Elle te détourne du chemin large vers le chemin étroit, de tes convoitises vers ton devoir, du péché vers la sainteté, de Satan vers Dieu. Tu dois te voir et te prendre en horreur, tu dois veiller, tu dois prier et tu dois jeûner. Tu ne dois pas regarder ton tentateur, mais ton conservateur. Fuis les mauvaises compagnies, retire-toi dans tes solitudes, et sois un pèlerin chaste dans ce monde mauvais. Ainsi tu parviendras à la connaissance de Dieu du Christ, qui apporte la vie éternelle à l'âme, une assurance bien fondée de ce qu'un homme sent et connaît au-dedans de lui-même. Ceux-là ne seront pas ébranlés par de mauvaises nouvelles. Suite au chapitre 8, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.